jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL et ce soir, on se demande comment va la langue française. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Il se répand dans les collèges et les lycées une façon de parler, plus précisément une façon de prononcer les sons du, tu, dit,
elle vient
et
de
ti,
le faire.
Exactement, qui donne en phrase type la chronique culture de ce mercredi est dramatique. On prononce comme ça, c'est-à-dire la vie est dure, Jean-Michel Apathy.
Ce soir, on a décidé de se pencher sur la langue française. À coup d'anglicisme, d'inclusivité, d'acronymes, de libertés en tout genre, on l'a dit en danger. Mais qu'en est-il vraiment? Cette jeunesse qui s'en empare, est-elle créative, fantaisiste ou fossoyeuse de notre langue? Ces mots nouveaux, anciens, ressuscités, sont-ils à eux seuls les reflets des mouvements de l'histoire et des bruits du monde? Ce soir, on demande l'avis à nos deux professeurs. Jean Pruvot, bonsoir.
Bonsoir.
Cher Jean, soyez le bienvenu dans Jour J. Vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française et auteur de tant d'ouvrages. Et vous êtes venu ce soir avec vos cartables parce que vous passez votre vie avec des dictionnaires. Et ça tombe bien parce qu'on va raconter l'histoire des mots. Est-ce que vous êtes inquiet, Jean Pruvot, pour la langue française?
Non, je pense qu'il faut être vigilant, attentif, bienveillant, constructif.
Quand même, vigilant.
Vigilant pour que nos jeunes aient tous les possibles devant eux, c'est-à-dire qu'ils aient d'un côté effectivement l'argot des jeunes, le langage de jeunes, mais ils aient aussi le langage très cultivé, qu'ils puissent profiter de toute la littérature. Donc c'est une question d'ouverture, il faut ouvrir en permanence, il faut expliquer, il faut être enseignant, il faut aimer les jeunes.
À vos côtés, Michel Feltin-Palas. Bonsoir Michel.
Bonsoir Flavie, je corrige, vous m'avez flatté, mais je ne suis pas du tout professeur, moi je ne suis...
Non, mais vous êtes nos professeurs de l'émission,
oui, c'était dans ce sens-là. Non, moi je suis journaliste et je vais voir les professeurs.
Exactement.
Comme Jean Pruvot pour essayer
vous êtes nos professeurs, vous êtes nos guides, puisque vous vous intéressez à la langue française, vous êtes rédacteur en chef à l'Express, et vous êtes quand même auteur d'un ouvrage aux éditions Héliopolis. Cultivons la langue française. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous invite aussi ce soir. Un très bon ouvrage, selon Jean Pruvot. Et il sait de quoi il parle. Justement, comment est-ce qu'on la cultive, cette langue française? Comment est-ce qu'on peut en prendre soin? Cette langue, elle est vivante?
Bien sûr, elle est vivante. Moi, je partage tout à fait l'avis de Jean Pruvot. Je pense simplement ce qui est important pour les jeunes, c'est évidemment qu'ils aient leur langage à eux, c'est vrai, de toutes les générations, et c'est normal. L'important, c'est de ne pas avoir un seul registre de langue, de connaître plusieurs registres, d'être capable de changer de registre selon les situations. On ne s'exprime pas de la même manière quand on est dans une soirée avec des copains à s'amuser, et si, par exemple, on se présente à un entretien d'embauche.
Est-ce que les jeunes sont les seuls concernés par la question que l'on pose ce soir et la problématique qui est la nôtre, Jean Pruvot?
Non, je pense que toutes les classes sociales sont concernées. Je pense que les journalistes le sont, quand ils utilisent énormément l'anglicisme qu'il y a un mot français. Je sais pas, quand on évoque un best-of, c'est pas mal d'évoquer aussi un florilège. C'est assez joli, bon, une anthologie, il y a des choses assez belles qui peuvent être utilisées. Donc, j'ai vraiment le même point de vue. C'est-à-dire que s'il y a qu'un seul mot qui étouffe tous les autres, ça, c'est dommage.
D'accord.
En revanche, si on a les mots des différents registres, en connaissant l'histoire, parce que je trouve que ça, c'est peut-être ce qui manque dans notre système, c'est l'histoire des mots, d'où viennent-ils? Alors là, ça ne manque pas de charme.
Mais c'est vrai qu'on incrimine la jeunesse, Michel Feltin-Palas. Est-ce que c'est vraiment juste? D'abord, c'est dans l'histoire de l'humanité que de marquer une différence avec la génération précédente à travers notamment l'emploi d'un jargon qui n'appartient qu'aux jeunes. Ça fait partie de l'émancipation. Mais surtout, en fait, quand on regarde aujourd'hui et quand on parle de l'appauvrissement de la langue française, pardon, mais j'ai l'impression vraiment que tout le monde est concerné. Il suffit d'écouter les médias, il suffit parfois d'écouter les politiques, il suffit d'écouter des adultes dans la rue. Il n'y a pas que la jeunesse que l'on peut incriminer.
Oui, mais alors j'aurais une divergence avec vous. Je ne crois pas qu'il faille parler d'appauvrissement, mais plutôt...
Ça n'est pas mon point de vue, l'on entend énormément.
Vous avez raison de le dire. C'est vrai qu'il y a des mots qui disparaissent, qu'il y a des formes de phrases qui disparaissent, qu'il y a des temps qui disparaissent. L'imparfait du subjonctif a quasiment disparu, y compris à l'écrit. Le passé simple est en train de disparaître à l'oral. C'est donc, on peut dire, c'est un appauvrissement. En tout cas, c'est quelque chose en moins. Mais il y a des choses en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui a toujours existé. Considérer que le français de 2024 est un français appauvri par rapport au français 1924, ce serait comme dire que le français de 1924, c'était du latin appauvri. Non, c'est du latin qui a évolué avec des choses en plus et des choses en moins. Jean Pruvot en parlerait beaucoup mieux que moi, mais j'avais écrit un article à propos d'un de ses livres. Je crois que dans le premier dictionnaire de Pierre Larousse, ou un dictionnaire de 1906, par rapport à ce dictionnaire-là, 10 000 mots avaient disparu, mais 15 000 étaient apparus. Donc une langue vivante, c'est cela. Il y a des choses qui changent, qui disparaissent de fait, et puis il y a des choses qui apparaissent. Donc il y a appauvrissement, enrichissement, renouvellement en réalité.
Mais personne ne répond à ma question, qui doit-on incriminer ? C'est pas possible ça. Il y a les jeunes, mais il y a les adultes. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. On parlera de l'influence des réseaux sociaux. J'entends des fautes de français, j'entends des erreurs de syntaxe sur Instagram.
Ouais, je pense que le grand sentiment à mettre en avant, c'est la bienveillance et l'intercorrection. L'intercorrection, c'est-à-dire que celui qui sait l'histoire du mot, celui qui sait le sens d'un mot, il se doit de l'expliquer. Celui qui rencontre une faute d'orthographe, il se doit de la corriger. Alors on est un peu tous responsables, parce que quand je vois un ami qui fait une faute d'orthographe, j'hésite à lui dire. Il utilise, un problème pécunier, j'hésite à lui dire que ça n'existe pas, que c'est un problème pécuniaire. Et il faut le faire. Je pense que c'est à partir du moment où on est bienveillant, on le fait avec gentillesse, on fait progresser tout le monde, y compris nos amis.
Mais est-ce que les adultes ne sont pas un peu fainéants aussi aujourd'hui avec la langue française, Michel Feltin-Palas? Il y en a quand même bien un qui va balancer, c'est pas possible.
Non, je ne balancerai pas parce que je pense le contraire. Ou bien dire nous sommes tous fainéants, mais depuis l'origine de la langue française. Qu'est-ce que c'est que le français? On pourrait dire que c'est du latin déformé, du latin de fainéant. Il y avait 6 déclinaisons en latin. Il nous en restait 2 au Moyen-Âge, en français. Nous n'en avons plus qu'une. Est-ce que vous considérez comme une fainéante? Non, on ne m'a pas transmis, moi, l'idée qu'il y avait 2 déclinaisons en français parce que je suis né trop tard. Les langues changent, c'est normal. Elles changent, c'est une idée dérangeante. Elles changent à la suite d'erreurs. Il y a une erreur que je cite souvent parce qu'elle m'amuse beaucoup, c'est le mot « nombril ». Je dis que le nombril, mon nombril. C'est une faute énorme puisque « nombril » vient d'un mot latin où il n'y avait pas de « n » au début. Umbilicus, c'est-à-dire ça a donné le cordon ombilical et pas le cordon nombilical. Et à force de faire la liaison, un nombril, un nombril, un nombril, on a fini par mettre un N et à dire le nombril, c'est comme le navion des enfants. Imaginez que je dise à quelqu'un, on ne dit pas le nombril, on dit l'ombril et moi j'utilise l'ombril. Je serai le seul à le faire, je ne vais pas le faire. Vous n'entrerez pas dans un café, Flavien, en disant, garçon, j'aimerais que vous m'apportassiez un café. Pourtant, c'est d'excellent français, avec la concordance des temps, vous seriez ridicule. Parce que collectivement, la norme a changé et la faute s'est généralisée. C'est une idée difficile à admettre, mais c'est comme ça qu'évoluent les langues. Et le français d'aujourd'hui, c'est une succession de fautes par rapport au latin, ou plus exactement, c'est une série d'évolutions par rapport au latin.
C'est vous dire si cette émission va être passionnante. Jean Pruvot, je sens que vous êtes déjà accroché à votre micro. On va se retrouver dans un instant, on va poursuivre cette conversation. Bien évidemment, l'idée n'est pas de chercher un coupable, mais l'idée est quand même de s'interroger. Et parfois, moi j'avoue que j'ai un petit peu les oreilles qui saignent, même si effectivement je trouve que cette jeunesse est absolument créative et elle me passionne aussi pour sa langue.
Je pense que cette langue évolue et qu'effectivement, pour un vieillard comme moi, ça fait bizarre.
Je corrige beaucoup de copies d'élèves, et alors les S, les NT, ils inversent, enfin, c'est de pire en pire. Des bacs plus 5 quand même. Si vous regardez les copies de vos grands-parents ou même parents, à mon avis, ils faisaient beaucoup moins de fautes.
Les gens font beaucoup de fautes de grammaire. Même à la télévision, les journalistes, tout ça, ça c'est vrai.
Georgie s'intéresse ce soir à la langue française. Sommes-nous en train de la perdre? C'est la question que l'on se pose tous ensemble, en se remettant soi-même aussi en question, mais également avec nos invités que sont Jean Pruvot, professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française, auteur de différents ouvrages. Alors Jean, ça y est, maintenant vous nous faites le dictionnaire du vin, de la bière et du champagne.
Oui, avec grand plaisir, en expliquant le mot sommelier, par exemple, d'où vient le mot sommelier, ça a un certain charme. Quand je parlais de l'histoire des mots, c'est celle-là. D'où ça vient?
Ça vient d'où?
Eh bien, il y avait les bêtes de Somme, oui. Ça vient du latin soma qui est une charge, donc les bêtes de somme. Le sommelier, c'était celui qui s'occupait des bêtes de somme, qui est devenu le sommelier des nappes de la reine, le sommelier des habits du roi et le sommelier de l'échanson. Joli mot aussi, l'échanson, qu'on peut remettre et expliquer aux élèves. L'échanson, c'était un mot germanique qui s'occupait vraiment du vin. Et comme il était le sommelier de l'échansonnerie, là où on mettait le vin, l'échanson a laissé sa place petit à petit, et voilà comment le sommelier est là et se retrouve devant quelqu'un qui va lui dire « Votre vin est à une oreille ». Ça veut dire qu'il est très bon. C'est comme ça qu'on disait au XVIIe siècle.
Pourquoi ?
On penchait légèrement la tête et on montrait une oreille. Et un vin à deux oreilles, Bon, là, on ne le dit pas au sommelier, sinon on est chassé immédiatement du restaurant.
Voilà comment sauver notre langue française en racontant des histoires. Non pas, Michel Feltin-Palas, vous êtes également passionné par la langue française et vous êtes rédacteur en chef à L'Express, vous êtes passionné par les langues régionales. Ça n'est, l'idée n'est pas de reprendre quelqu'un en lui expliquant qu'il fait une erreur. L'idée est de l'inviter peut-être à découvrir d'autres choses pour mieux se situer dans la langue française.
Bien sûr. La clé, c'est ça. Après, vous disiez que le niveau, on entendait le niveau baisse en orthographe, c'est une réalité. Hein. On a des études scientifiques. La même dictée a été donnée à des enfants de générations différentes. La même dictée au mot près, je crois qu'il y a 40 mots. En 1987, 10 fautes en moyenne. Aujourd'hui, 20 fautes. La même dictée qui n'est pas difficile. Et il y a des raisons à cela.
Comment on l'explique ?
Alors, premièrement, les jeunes lisent moins de livres qu'avant. Je ne leur jette pas la pierre. Moi, à mon époque, je suis vieux, j'avais pas Internet, j'avais pas de téléphone portable, il devait y avoir deux chaînes de télévision. Bah, quand je m'embêtais, je prenais un livre. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup d'écrans à leur disposition, c'est tentant. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les réseaux sociaux. Non pas en soi. Mais quand on lisait avant, bah, on lisait en général un livre ou un journal. Et globalement, c'était du bon français, bien écrit, parce qu'il y avait des réviseurs, etc. Donc, notre mémoire photographique, elle était confrontée à une langue bien écrite et bien orthographiée. Quand vous passez beaucoup de temps à lire les réseaux sociaux, bah, nous commettons tous des fautes d'orthographe, voire de syntaxe. Et donc, vous êtes confrontés à des erreurs qui s'impriment dans votre mémoire photographique. Et puis, on passe moins de temps à l'école globalement. Et parmi le temps scolaire, il y a moins de temps qui est consacré à l'orthographe que dans les générations précédentes. Quand vous ajoutez tout ça, vous arrivez au résultat objectif qui est celui que je disais, multiplication des fautes.
Pourquoi est-ce que les adultes parlent moins bien le français ? Pardon d'insister, encore une fois, sur les réseaux sociaux, ce que vous étiez en train de souligner, Michel Feltin-Palas, il est des fautes qui deviennent presque contagieuses. Il y a une expression, moi, qui me rend mais hystérique, et pourtant j'ai l'impression d'être un peu ouverte et bienveillante à ce sujet, c'est l'expression « je vous partage mes conseils, je vous partage mes recettes ». Est-ce que l'on peut expliquer à nos auditeurs, à moins que vous ne soyez là pour me contredire, et auquel cas ça m'intéresse, que ça n'est pas français, Michel Feltin-Palas ? Est-ce que c'est français ?
Alors, je ne pense pas que ce soit français, mais il faut voir, effectivement, on entend aussi beaucoup, c'est juste formidable.
En quoi est-ce une anglicisation que de dire « je vous partage » ?
Alors, vous êtes en train de nous coincer sur la connaissance des anglais. Je pense que ça fait partie d'un calque de l'anglais. Je ne l'ai pas en tête, mais j'en suis presque certain.
Bah, on dit « I share with you ».« I share with you » en anglais. Donc, je partage avec vous. Ça, c'est là. En français, c'est ce que l'on doit dire. Pourquoi est-ce que l'on dit « je vous partage » ?
Alors maintenant, il suffit que quelqu'un fasse une bêtise de ce type à la radio. La radio est très responsable. Vous, vous exprimez très bien. Il y a beaucoup de journalistes qui s'expriment très bien à la radio. Mais j'en entends d'autres qui commettent des fautes assez graves. Et évidemment, c'est répété, c'est redit. Et après, ça rentre dans la langue comme une erreur pécuniaire. Pécunier, si on
donc,
ne vous le dit pas.
Les réseaux sociaux aggravent finalement la situation.
Ah ben souvent, oui.
Je ne fais pas le défenseur des réseaux sociaux, je le disais à l'instant. Il faut voir qu'il y a un biais. Au début du XXe siècle, la radio commence à exister, mais on n'avait pas de traces orales. Donc on a une vision du français du début du XXe siècle qui est exclusivement écrit. Et donc forcément, le filtre est important. Vous n'avez pas, Flavie, des émissions de radio comme les vôtres où on entendait des auditeurs parler. Il y a un livre absolument formidable qui retrace le français oral du début du XVIIe siècle. C'est le journal de l'enfance de Louis XIII. Il y a un médecin qui a noté mais tout, et il notait les dialogues de Louis XIII avec les adultes de son époque. Eh bien, on est très très loin de Racine et de Corneille. Hein. Et là, vous avez la langue vivante du XVIIe. Mais quand on compare, on dira le français du XVIIe, quelle merveille. Oui, quand vous lisez Racine, ça ne correspondait pas du tout à la manière dont les Français de tous les jours s'exprimaient. Il y a le même biais aujourd'hui. Si vous voulez, il aurait fallu avoir les enregistrements du Café du Commerce au début du XXe siècle. Il y avait sans doute des erreurs de syntaxe.
On va se retrouver dans un instant, messieurs. On va parler de tous ces mots qui ont connu la plus forte hausse de consultations sur le net en 2023. Il y a wokisme, il y a gênance, il y a abaya et il y en a plein d'autres. Et puis, on va parler des fameux anglicismes. Ils sont repris partout, même par nos politiques et même par notre président de la République et qui pourtant s'est positionné en ardent défenseur de la langue française. A tout de suite sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean Pruvot et de Michel Feltin-Palas. On s'intéresse donc à notre langue française. On l'a bien compris avec vous, messieurs. Il faut faire montre de bienveillance, accepter les mouvements de cette langue qui est vivante et en même temps rester vigilant quant à des choses qui se perdent, quant à des choses qui arrivent et des erreurs qui deviennent finalement presque banales et que l'on accepte aujourd'hui alors qu'on pourrait peut-être aussi les corriger avec un tout petit peu d'ouverture et de bienveillance. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on parle de ces mots qui ont connu la plus forte hausse de consultations sur le net en 2023. Parmi eux, il y a abaya, wokisme et gênance. Quentin de notre équipe est allé à votre rencontre.
L'abaya, c'est le... Non, attendez, l'abaya, c'est le port du... Pas du voile.
Je ne sais pas ce que c'est.
Vous savez pas ce que c'est l'abaya?
Non. C'est une danse, non?
Le wokisme, est-ce que ça vous parle?
Ce qui concerne le wokisme, l'homme blanc est maltraité.
Je le connais comme concept, mais je suis pas capable de le redéfinir.
Le gênant, je pense que ça vient de gêne, c'est-à-dire ce qui peut déranger les autres, comme par exemple les gens qui téléphonent très fort dans le métro.
La gênance, ça veut dire... gêner quelqu'un, non? L'action de gêner quelqu'un?
Qu'une idée.
C'est pas ce que c'est la gênance.
Non, ça serait comment?
Alors, Jean Pruvot, est-ce que vous dansez souvent l'abaya?
Non, je ne danse pas l'abaya, mais mon épouse a mis une abaya un jour où nous étions...
Marinette.
Oui, en pays donc, où c'était quasiment une obligation. Donc c'est vrai qu'avec l'interdiction qui a été mise en place des abayas dans l'école par le ministre de l'Éducation nationale...
Exactement.
Bah, le mot est venu. C'est comme ça souvent que ces mots-là arrivent dans nos dictionnaires, parce qu'ils sont d'actualité.
Donc ça veut dire que les mots, la langue française, sont le reflet des mouvements de la société ?
Oui, alors on a une très grande chance en France, parce qu'on a vraiment d'excellents dictionnaires. On a celui de l'Académie française, qui vraiment est un ouvrage qui donne toutes les éditions gratuitement de la première à la neuvième, et avec de jolis exemples sans citation, et qui donc est un très bon dictionnaire de l'usage, gratuit sur Internet. On a le Larousse, qui existe depuis 1856, par Pierre Larousse, millésimé, qui depuis 1905 est le petit Larousse, et qui est une merveille aussi, disons, de mise à jour, de vigilance, justement, sur les mots nouveaux et les néologismes. On a le petit Robert, qui date de 1967, et qui lui aussi, évidemment, est un dictionnaire de qualité. Et donc, comme tout ça est au bout de la main sur ce qu'on appelle nos téléphones intelligents, nos smartphones.
Nos smartphones, voilà. On va arriver aux anglicismes, vous inquiétez pas.
Eh bien, c'est presque dommage qu'on ne s'en serve pas. Et alors, pour évoquer aussi des mots, moi je suis presque rassuré que ce mouvement qu'est le wokisme ne soit pas très bien compris, parce que c'est très flou, c'est très compliqué, ça demande à expliquer. Alors, c'est vrai que ça vient de, en fait, to wake, veiller, et c'est un afro-américanisme qui a donné, donc, déformé wake en woke, et qui est pour davantage de justice. Mais on y a rajouté l'inclusif, on y a rajouté beaucoup de choses, et là, ça devient très flou.
Vous parlez d'inclusivité de la langue française. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel Feltin-Palas, de l'écriture inclusive?
Il faut bien rappeler qu'il y a plusieurs éléments dans l'écriture inclusive. Certains font relativement consensus et certains font l'objet d'un rejet majoritaire dans la population. Si je vous dis, par exemple, que jusqu'il y a quelques années encore, dans le dictionnaire de l'Académie française, malgré les qualités que je reconnais à Jean, la définition d'une ambassadrice, c'était femme de l'ambassadeur.
Absolument.
Voilà. Il était interdit qu'une femme qui tenait une ambassade, c'était ambassadrice,
c'était
femme
l'ambassadeur.
De l'ambassadeur. Voilà. Voilà. Et l'Académie française s'opposait à cela, un mouvement qui avait été accepté. Donc la féminisation des noms de métiers, je pense, est très majoritairement accepté. Si je vous rappelle que le général de Gaulle, lorsqu'il commençait ses interventions télévisées, disait « Française, Français ». Et non pas Français. Français, ça marchait. Mais le général de Gaulle, qui a institué le droit de vote pour les femmes, estimait qu'il devait s'adresser vraiment à l'ensemble du corps électoral et de dire « Française, Français », ce genre de formule. Je sais pas comment vous prenez, j'ai pas fait attention quand on prend l'antenne. « Bonjour à toutes et à tous ». Vous voyez, ce genre de choses, ça passe assez bien parce qu'on a des études qui montrent effectivement que le langage a des effets sur les représentations. Par exemple, quand un hôpital recrute un infirmier. Alors, on recherche un infirmier. Il a moins de candidates femmes que si l'offre d'emploi, c'est on recrute un infirmier ou une infirmière. Vous voyez? Si je vous dis, pour rester dans l'hôpital, tiens, les chirurgiens sortent du bloc, une des femmes paraît épuisée, ça surprend. Vous voyez? Si j'avais dit, les chirurgiens, les chirurgiennes sortent de l'hôpital, l'une d'entre elles. Donc, on voit bien que le langage a des effets sur les représentations. Donc, la volonté des partisans de l'écriture inclusive, elle est d'abord sociale, c'est d'assurer l'égalité des femmes et des hommes à travers le langage aussi, et c'est un objectif qu'on peut partager. En revanche, les moyens qui sont proposés. Certains, je disais, sont relativement consensuels. Quand on arrive au fameux point médian, quand on arrive à des Celsus, donc les mots, les néologismes de ce type-là, ceux-là sont majoritairement rejetés. Mais je crois que la plupart des Français, sans le savoir, sont favorables à certains éléments de l'écriture inclusive, en refusent d'autres. Certains les acceptent tous, certains les refusent tous. Mais la situation est plus nuancée que pour ou contre.
Il en est qui pousse l'idée à l'extrême. On va écouter de la comédienne Tiffaine D. Elle a décidé, quant à elle, de tout féminiser. On l'écoute.
Quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi je fais encore une autre proposition, parce que moi j'ai aussi une dimension artistique, donc quelque part je fais ce que je veux avec mes cheveux, et une peintresse choisit ses couleurs et moi je choisis mon vocabulaire, une chefesse en cuisine a choisi ses saveurs et moi je choisis ma grammaire. Donc quelque part, quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude. Et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création, parce que c'est belle et que c'est intéressante.
Alors, des horizons de création, alors ça nous fait sourire évidemment dans ce studio, mais néanmoins c'est une démarche militante de cette jeune comédienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Feltin-Palas?
Une démarche artistique, elle est respectable, elle fait un spectacle, il n'y a rien à dire, enfin voilà, c'est on n'aime pas, c'est pas grave. Après, il ne faut jamais oublier que la langue, elle a une dimension sociale. Une langue, on la partage avec d'autres, et il faut donc qu'il y ait un minimum d'intercompréhension. Donc on peut pousser à certaines évolutions. Il faut savoir qu'à la fin, c'est l'usage qui prime. Donc soit les partisans de l'écriture inclusive les plus extrêmes, si je puis dire, dans les points, finiront par convaincre tout le monde, et le jour où la majorité des francophones parlera comme ça, ce sera la norme, et puis c'est comme ça, on aura décidé collectivement, la langue nous appartient à tous. S'ils ne l'emportent pas, je crois que les cas les plus extrêmes ne marcheront pas, mais je peux me tromper, j'en sais rien, on verra, ils seront obligés de reculer sur ces plans-là, me semble-t-il.
Est-ce que vous êtes prêt, Jean Pruvot, à une féminisation totale de la langue française?
Totale, sûrement pas. Je suis prêt à l'égalité, si vous voulez, entre les hommes et les femmes.
Est-ce que vous considérez qu'elle n'est pas juste avec les femmes, la langue française?
Je considère qu'elle est en évolution, et il est évident que quand on lit la première définition en 1690 de 1680 même de Richelet, femme compagne de l'homme, c'est peut-être un peu léger, mais dans le même temps, il y a une évolution qu'on est bien obligé de reconnaître. Les femmes travaillent maintenant à égalité avec les hommes.
Et oui, on est obligé de le reconnaître, mon cher Jean.
Et l'Académie française, c'est là où il faut aussi dire les choses. Oui. L'Académie française est la première à avoir accepté auteur et autrice aussi, par exemple. Oui. Il y a eu un rapport qui a été fait sur le sujet, donc notamment Dominique Bonnat y avait travaillé, c'était des femmes, Daniel Salnave, Michael Edward, et qui ont été pour la féminisation des noms de métiers. Donc c'est quelque chose qui est en route, qui est difficile à contredire.
Messieurs, vous êtes toujours nos invités, Jean Pruvot, Michel Feltin-Palas. On s'intéresse à notre langue française et nous étions sur le sujet délicat. Un peu éruptif, je dirais. On dit éruptif ou pas?
On peut le dire, c'est aussi un anglicisme un petit peu. Mais
bon, allez, on en parlera après, des anglicismes. Éruptif, donc, de l'écriture et de la langue inclusive. Michel Feltin-Palas, vous vouliez réagir aux propos de Jean Pruvot?
Oui, l'Académie française, objectivement, a été très en retard sur ce sujet-là.
C'est ce qui me paraissait, mais je ne suis pas spécialiste.
La féminisation des noms de métiers a été acceptée au Québec, en Suisse, à la fin des années 70. Et il a fallu attendre la fin des années 2010 pour que l'Académie française finisse par s'y résoudre. Donc, non, elle a été objectivement très en retard. En retard, elle a freiné, et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que l'Académie française ait été très allante. J'ajoute que le mot « autrice » qu'employait tout à l'heure notre invité, qui nous surprend parce que moi je ne l'entendais pas quand j'étais jeune, est un mot qui était attesté en France jusqu'au XVIIe siècle.
Absolument.
Et c'est l'Académie française, dans son premier dictionnaire en 1694, je parle sous l'autorité de Jean Pruvot qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, qui a enlevé ce mot. Il faut rappeler que l'Académie française en 1694 était composée de 40 hommes. Et il ne faut pas leur en vouloir. C'était la vision de l'époque. La place d'une femme n'était pas d'écrire des livres, mais plutôt d'être reléguée au foyer. Et ils ont enlevé l'acception autrice. Voilà. Donc, on voit bien que, évidemment, les dictionnaires reflètent la vie des sociétés. Il ne faut pas en vouloir. Les choses évoluent, c'est tout à fait normal. Et l'Académie française, très allante sur la féminisation, ça m'a fait un peu réagir, oui.
Et le mot autrice, c'est intéressant, qui, moi, écorchait mes oreilles, mon cher Jean Pruvot, finalement, est devenu très commun pour moi à partir du moment où j'en ai connu l'histoire. Et et c'est effectivement important de le savoir.
C'est effectivement l'Académie française qui a évoqué le fait qu'on pouvait dire autrice plutôt que auteuse, auteur, mais il y avait aussi auteuresse. C'est-à-dire que quand on évoque l'autrice au XVIIe siècle, on crie victoire, mais il y avait beaucoup d'autres mots. Et quand vous dites, à juste titre, que ça vous choquait, ben, l'Académie ne faisait que, dans le fond, se faire l'écho de ce que l'usage en général n'acceptait pas. Hein, et c'est tout. Je crois qu'il faut dire qu'une langue, c'est quatre générations, les jeunes, les adolescents qui veulent bouger la langue, les adultes qui ont besoin de mots, et puis les gens plus âgés dont je fais partie, qui veulent garder une certaine mesure. Et c'est une moyenne. Aujourd'hui, autrice est acceptée. Vous venez de le dire, il y a quelques temps, ça vous choquait. Bon, bah, l'Académie aussi, ça l'a choqué.
Voilà. Ouais, ça choquait mes oreilles. Ça ne choquait pas le sens, véritablement, mais ça choquait mes oreilles. C'est intéressant parce qu'on vient d'entendre Jean Prouveau qui nous dit bon, finalement, l'Académie, elle suit. Mais l'Académie, elle n'est pas là pour suivre.
Ah,
Michel
si, elle enregistre l'usage. Ah non, l'Académie n'a jamais dit qu'elle était l'arbitre. L'Académie a toujours dit nous suivons l'usage.
Je me suis engueulée.
C'est une erreur qu'on fait constamment. L'Académie a été faite pour enregistrer le bon usage, plutôt le bon usage.
Oui, mais s'interroger aussi.
Elle a toujours refusé d'être l'arbitre. On peut lui demander son avis. Elle le donne.
Quand même.
Le petit Larousse et le petit Robert ne suivent pas l'Académie. Ils font ce qu'ils veulent.
Michel.
Jean a formellement raison, mais
voilà.
Quand l'Académie dit il ne faut pas dire ça, il faut dire ça, elle a une influence
évidemment
supérieure à celle de l'avis de mon boulanger, et c'est normal. Donc l'Académie n'est pas là que pour enregistrer, elle préconise, elle est aujourd'hui plutôt conservatrice, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, il faut dire, mais moi j'aime beaucoup l'Académie française en tant qu'institution. Toute institution a des faiblesses, a des forces. Actuellement, l'Académie française n'est pas très très allante, alors ça va peut-être changer avec Amine Malouf, qui a une vision très différente de la langue, beaucoup plus ouverte que, et il est franco-libanais, voilà, que ne l'était Hélène Carrère-Dancos. Et il y a un point qui est très important que vous avez dit, nous sommes tous soumis à la force de l'habitude.
Ouais.
Nous trouvons beau et juste ce que nous avons toujours entendu. Et nous avons tous une résistance. Moi, autrice, ça m'a choqué, pourtant je travaille dessus, je connais l'histoire des mots, parce que je n'étais pas habitué. Je suis persuadé que mes petits-enfants, ils trouveront autrice aussi naturelle que directrice, que j'ai toujours entendue moi-même. Voilà. Donc ça, ce sont des phénomènes naturels. Il est normal de résister, d'être choqué, et il faut savoir que ça change, et que ce que nous trouvons, nous, naturel, parce qu'on l'a entendu depuis l'enfance, aurait choqué sans doute les francophones d'il y a 100 ans.
Vous parliez d'Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, décédée au mois d'août, et c'est Amine Malouf, l'écrivain Amine Malouf, qui a pris donc le relais à ce poste à l'Académie.
Oui,
Jean,
c'est ça.
Après, on passe aux anglicismes.
Alors, je voulais juste souligner que l'Académie française, son dictionnaire, donc, on est à la 9e édition, gratuit sur Internet, passe de 40 000 à 60 000 mots. Et donc on y trouve beaucoup de mots techniques. Et c'est la même chose que le Petit Larousse ou le Petit Robert. Le Petit Larousse est aussi une merveille avec ses illustrations.
Oui.
Et il nous offre la langue au fur et à mesure. Mais le bon usage avec des exemples est là, présent dans l'Académie française. Le Robert donne les citations, le Petit Larousse donne un aspect encyclopédique de grande qualité.
Pour revenir au mot, moi je ne connaissais pas le mot jaculatoire.
Ah oui.
Et je le trouve assez amusant.
Oui, surtout prononcé
assez
par
jouissif,
le pape.
Assez jouissif justement, et parce qu'il a été, racontez-le, prononcé par le pape.
Oui, c'est ça.
Ça
le
veut
pape,
dire quoi jaculatoire?
Jaculatoire, c'est le latin jaculari qui veut dire jeter en avant. Alors on comprend le mot éjaculer, évidemment.
Forcément, ceci dit, ça doit avoir une racine commune.
Oui, c'est la même chose.
Commune,
même chose. Bon, je ne vais pas faire trop d'images. Mais
non, mais enfin, on a tous compris.
On va de l'avant dans le cas de ce mot, et puis une jaculatoire, donc en deux mots, c'est une prière rapide. Et c'est ce que mettait en avant le pape, faire le plus possible de jaculatoire, de petites prières. Bon, là, on va peut-être se mettre de côté et faire une jaculatoire.
Eh bien, on va faire une jaculatoire parce qu'on va se retrouver dans un instant pour parler des anglicismes.
Être une start-up nation, j'ai pivoté le business model, le numérique et le healthcare, à travers les civic tech, les green tech, les clean tech, et donc la silver economy, le crowdfunding. On a besoin de développer un venture capital français. Ils avaient cette culture du invented here. On a fait du job mentoring avec quelques-uns. C'est plus start-up en France, c'est scale-up. Entrepreneur is a new France. Yes.
Le coworking, le binge-watching, la semaine green, on se follow, on se donne des deadlines. Même les politiques succombent aux anglicismes, à l'instar, on vient de l'entendre, d'Emmanuel Macron. Les anglicismes, ça vous a toujours passionné à tel point que vous avez écrit à ce sujet, Jean Prouveau.
Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La story de la langue française » et à mon grand dame, « story » était un mot français, S-T-O-R-I-E, et au dernier moment, l'éditeur a voulu mettre les Y, c'était pas d'accord, j'ai obtenu les italiques et de toute façon, dans l'ensemble du livre, j'explique que ce mot est d'abord français. Alors, moi, si j'agis les anglicismes, j'ai vraiment presque une théorie. C'est-à-dire que tantôt, on prend les Français et même les anglophones pour des imbéciles. Quand on dit Annecy Mountain, Maille-Loire Vallée, bon, c'est des anglicismes qui n'ont aucun sens. Tout le monde, Choose France, ça fait sourire les Anglais, ça sert strictement à rien. Tantôt, c'est du charabia. Alors, quand j'entends, par exemple, Made for Sharing, The Bridal Fashion Week, mais ma grand-mère ne comprendrait rien. Le bridal, faut savoir que ça veut dire le mariage, frame rate élevé, je ne comprends pas, et donc si vous voulez, là c'est quelque chose, j'évoquais tout à l'heure évidemment, farm coaching pour améliorer mes soft skills, bon, alors l'humour est la bonne chose, on demande est-ce que vous êtes d'accord pour le tartifletting ou est-ce que vous êtes d'accord, on peut mettre de l'anglais comme ça un peu partout avec beaucoup de... Et puis alors tantôt, c'est une asphyxie. Et le problème est grave dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est que on ne sait plus comment on dit en français. La deadline, par exemple, j'ai des collègues qui me disent « Mais comment on dit en fait en français deadline ?» Je les comprends parce qu'on entend tellement deadline, on nous demande des deadlines. Et je lui dis « C'est date butoir, ça se comprend très bien. Mais... Best of, bon, comment on dit en français ?» Alors là, c'est là où il y a du travail à faire.
Alors, parce qu'il faut inviter à chercher, ça peut être un jeu qu'on peut faire avec les plus jeunes d'ailleurs. Hein.
Bien sûr.
Trouve-moi le mot français pour ce mot anglais que l'on utilise. Ce qui est intéressant, vous avez dû le noter Michel Feltin-Palas, c'est que quand Jean Pruvot nous a fait son discours il y a un instant, il a utilisé le mot charabia. Or, charabia, ça n'est pas un mot français pour autant. Charabia,
ah oui,
Jean Pruvot.
Attendez.
Vous avez dit tout ce charabia.
Oui, oui. Non, mais alors, attendez, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Nos ancêtres, les Arabes.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots arabes dans la langue française.
Bien sûr. Et je ne suis pas non plus contre les mots anglais. C'est pas
alors,
une guerre contre l'anglais.
Est-ce qu'on s'enrichit, justement, des langues étrangères?
Une langue meurt si elle n'est pas.
Alors,
si elle n'emprunte
pas. Le phénomène des emprunts aux langues étrangères est un phénomène naturel et qui enrichit la langue. Il y a un problème avec l'anglicisme, avec les anglicismes. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'emprunt, on est dans la domination. Le français emprunte presque exclusivement parmi les langues étrangères, presque exclusivement à l'anglais, presque. Le français n'exporte quasiment plus vers l'anglais. Pendant longtemps, les mots anglais étaient francisés. Par exemple, un paquebot, c'est « packet boat », des paquets sur un bateau. Une redingote, c'était « riding coat ». Et donc, on le prononçait à la française. Aujourd'hui, « smartphone », c'est « smartphone ». Et puis, comme le disait Jean, et là, c'est l'étape ultime, on finit par remplacer des mots français bien installés par des mots anglais qui n'apportent rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de trafiquants, il y a des dealers.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, à quoi ça sert? Et il faut comprendre quel est le phénomène derrière. Il y a un phénomène, Emmanuel Macron en est l'incarnation type, c'est que quand on emprunte une langue étrangère, on le fait pour une certaine raison, consciente ou inconsciente. La volonté, c'est d'être moderne. Pourquoi? Parce que l'anglais, c'est pas l'anglais de l'Angleterre que l'on imite aujourd'hui, c'est l'anglais des États-Unis, presque de la Californie. Et donc, je me réfère à la puissante qui domine culturellement, technologiquement, économiquement, militairement. C'est ça qu'il se passe. Et comme en France, nous avons peu de culture linguistique, nous ne comprenons pas qu'une langue est beaucoup plus importante. Elle ne sert pas simplement à communiquer, elle renvoie un système de valeurs à une vision du monde. Et je vous le dis parce qu'on n'en a pas conscience en France. Les Américains, ils ont parfaitement compris. Imposer sa langue, c'est imposer sa pensée. Et je vous cite un extrait d'une conférence qui s'est tenue entre les pays anglo-saxons il y a quelques décennies. L'anglais doit devenir la langue dominante, remplaçant les autres langues et leur vision du monde. Les Américains ont compris que s'ils arrivent à imposer l'anglais, ils écouleront leurs marchandises et leur système de pensée. Les Américains ont raison de faire ça. Il y a une guerre des langues, ils utilisent les moyens à leur disposition pour leur langue. Moi, je suis effrayé. Quand le président de la République française, en l'occurrence Emmanuel Macron, mais malheureusement ça n'est pas le seul, fait le jeu des Américains. Les Américains se frottent les mains. Nous utilisons l'anglais qui est la langue de notre principal rival commercial. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est comme si une équipe de foot se mettait en face des autres en train de marquer des buts contre son camp. C'est exactement ce que l'on fait. Et on fait cela parce qu'on n'a pas conscience en France qu'une langue est une richesse extraordinaire, une création culturelle de l'humanité. Vous voyez arriver avec mes gros sabots. Et on le fait parce qu'on détruit nos langues régionales. en imposant un discours qui consiste à dire « on s'en fiche, le français c'est plus utile », mais à force de faire ça, il y a une langue qui est plus utile encore que le français, c'est l'anglais. Et moi je vous dis qu'en défendant la diversité culturelle française interne, c'est le meilleur moyen de défendre le français face à l'anglais. Pardon, je me suis emballé.
Non, et c'était passionnant.
J'aime cet emballement, moi je souscris complètement. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre langue avait un rayonnement qu'elle perd un peu. Alors je me suis quand même amusé à faire le recensement de ces mots qui sont utilisés par les Anglais. Le « je ne sais quoi », ils le disent. « Par excellence », ils le disent. « C'est la vie », ils le disent dans une très belle chanson de Chuck Berry d'ailleurs. « Vive la différence », ils le disent. Et alors il y en a qui sont délicieuses parce que, comme j'ai fait ce travail pour récupérer à peu près 400 ou 500 mots et expressions dans la langue française qui ont conquis le monde, il y en a comme pas devant les enfants. Vous trouvez ça dans un dictionnaire anglais-anglais, lu par des Anglais qui ne connaissent pas le français, et ils disent « I have to speak », mais pas devant les enfants. Donc, il faut qu'on valorise tout ça, parce que c'est quelque chose de délicieux. Bon, il y a des mots, parfois, qui sont et en espagnol, et en allemand, et en anglais. Bon, peut-être pas à notre honneur. Par exemple, « ménage à trois » se dit très fréquemment en anglais. Bon.
Écoutez, c'est parce que vous ne voulez pas de moi avec Marinette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Dire que Marinette écoute. Bon, en direct.
On salue Marinette Pruvot, évidemment. On se retrouve dans un instant, messieurs, car effectivement, ces expressions françaises qui s'exportent, c'est une façon, si on écoute et si on va dans le sens de Michel Feltin-Palas, de faire résistance. Donc, comment faire résistance ? On va le développer avec vous tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Comment défendre la langue française ? Emmanuel Macron a inauguré la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. C'était le 30 octobre de l'année dernière. Un carton que cette Cité internationale, car elle a même atteint en deux mois le cap des 53 000 personnes, soit plus d'un quart de son objectif annuel. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en dépit Jean Pruvot et Michel Feltin-Palas de ce que l'on a entendu et de son utilisation très 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 régulière des anglicismes, est un ardent défenseur de la langue française? Michel Feltin-Palas.
Non, pour la raison que l'on vient de dire, il faut être cohérent. Emmanuel Macron est très intelligent, très cultivé, mais il n'a pas eu d'éducation linguistique parce qu'on n'a pas d'éducation linguistique en France. Donc il dit régulièrement des bêtises sur ce sujet. Je le dis avec beaucoup de prudence. Moi, il se trouve que c'est un domaine que je connais un peu mieux. Il connaît des domaines beaucoup mieux que moi. Dans d'autres domaines, non, il n'y a aucune cohérence dans la politique d'Emmanuel Macron en matière de langue française. C'est très bien qu'il ait fait Villers-Cotterêts. Je dis par ailleurs que Villers-Cotterêts, c'est formidable. J'ai eu la chance d'y aller. C'est ludique, c'est drôle. Par exemple, vous pouvez y entendre la manière de parler, de prononcer de François Ier, de Jeanne d'Arc, d'Alexandre Dumas. Donc on s'amuse, on découvre des choses intelligentes. Voilà, si le français est devenu une grande langue mondiale, c'est en raison des conquêtes coloniales, pas en raison de notre structure syntaxique. Mais c'est vrai de l'anglais, du portugais, de l'espagnol, de l'arabe, hein, c'est ça, hein, les grandes langues qui dominent le monde. Donc on explique tout ça à Villers-Cotterêts, on s'amuse. J'ai une grosse réserve, c'est sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts elle-même, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas imposé le français, point, à la place du latin. La formule exacte, c'est « en langage maternel français », langage maternel français. Le langage maternel des Français de l'époque, c'est pour 10% le français, les autres, ils parlent breton, gascon, provençal, etc. Et dans la salle réservée à ça, il est marqué en langue française. Ils ont enlevé le mot maternel. Là, c'est quand même...
C'est un regret pour vous.
Ça me fait penser, vous savez, à la Pravda, quand on enlevait la photo de celui qui gênait, bah là, ils ont enlevé le qualificatif qui les gênait. Mais à part ça, c'est formidable, Villers-Cotterêts, allez-y, vous rirez, vous apprendrez plein de choses, et c'est vraiment très bien.
Pourtant, quand on écoute Emmanuel Macron, on a le sentiment que parfois, il ressuscite aussi des mots de la langue française.
Ah bah, personne n'est tout blanc ou tout noir.
Mais est-ce que c'est de la com, le saperlipopette, poudre de perlimpinpin, et toutes ces expressions dont on a le sentiment qu'elles viennent du fin fond des âges?
Avoir été invité dans certaines émissions de radio pour critiquer les mots difficiles qu'utilisait le président de la République. Alors je défendais les points de vue, je disais que c'était intéressant d'avoir des mots difficiles, des carabistouilles et des choses de ce type, c'était plaisant. Après on m'a dit bon, il utilise trop d'anglicisme. C'est vrai, là, je ne vais pas prendre le contre-pied. Mais je pense que quand on évoque Villers-Cotterêts, c'est quand même une belle chose que de célébrer cette ordonnance de 1539, qui, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami, mais peu importe, qui en tout cas, bon, est en l'honneur des langues ou de la langue française. Et c'était très bien aussi d'en faire un lieu de la francophonie, invitant tous les autres pays qui parlent le français. Parce que quand on évoque le français, pour moi, il y a le français régional qui a évidemment sa place. Il y a d'ailleurs dans le dictionnaire un mot, dans le petit Larousse que j'aime beaucoup, qui est ramité. Ramité, c'est un mot donc régional qui veut dire faire de nouveau amitié.
Exactement. Quand
on se ramite.
Exactement. Moi, je l'entendais quand j'étais gamine,
ah bon,
dans la bouche de mon grand-père. Est-ce que tu t'es ramité avec ta copine?
Voilà, donc c'est très joli de valoriser des mots de ce type. Il y a des mots comme couffle qu'on disait dans le midi quand on avait trop mangé. Et là, ça m'arrive souvent. Et donc, et donc là, je trouve que c'est courageux et c'est bien de faire ça. Et qu'il y ait déjà 50 000 personnes qui soient venues visiter l'endroit, bon, c'est quand même encourageant. C'était Barbara Cassin qui a aussi, avec Xavier Norf, organisé la chose. On devrait peut-être davantage y mettre les dictionnaires. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de dictionnaires, mais bon.
On vous a entendu, et l'un et l'autre, sur Villers-Cotterêts. On n'est pas obligé d'aller à Villers-Cotterêts aussi pour bien parler français et en tout cas se faire reprendre. Sur Instagram, il est des îlots de résistance, à l'instar de ce compte Athéna Sol Off. C'est celui d'une jeune autrice qui rappelle tout le monde à l'ordre et d'une manière aussi irrésistible qu'éclairée.
En train de. Pourquoi tu l'écris en deux mots? En train et deux. C'est en trois mots. En train de. Avoir de l'entrain, c'est autre chose, hein. Là, oui, c'est en un seul mot. Mais c'est autre chose. Alors arrête ça tout de suite.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'on se fait engueuler à chaque poste, mais c'est fabuleux parce qu'elle le fait de façon brillante et, je le disais, de façon très éclairée. C'est important, ça, Michel Feltin-Palas, que des jeunes, à l'instar d'Athéna Sol, s'emparent de la langue française et la rappellent à leur père.
Bien sûr, c'est important parce que je pense qu'elle a des codes pour parler aux jeunes de cette génération que moi, je n'ai pas. Peut-être Jean ne les a-t-il pas non plus. Et donc,
elle fait moins vieux con que nous.
Bah, évidemment. Et je me sens un peu handicapé. Et donc, c'est formidable qu'à chaque génération, il y a des gens qui prennent le relais. Et voilà, moi, j'ai regardé un certain nombre de ces vidéos. Je me dis, ah, j'aurais dû faire ça, mais je ne saurais pas le faire. Donc, c'est bien qu'elle le fasse, elle. Moi, je fais autre chose.
Je pense qu'il faut se ramiter de cette manière-là.
Exactement. Ouais, ramitons-nous.
Là, ramitons-nous cette jeune, cette élève. Et puis, quand j'évoquais la bienveillance au début, je pense à ça, c'est s'entraider. Et donc, il y avait autrefois dans l'éducation nationale l'opération Requin-Rémora. Requin, c'était une classe un peu au-dessus, et Rémora, c'était un peu en dessous. Et l'un aidait l'autre. Eh bien, ça, je crois que c'est nécessaire.
Oui, parce qu'il faut préciser que le Rémora est un petit poisson qui vit finalement sur la peau du requin et qui profite du requin pour se déplacer et qui se nourrit aussi sur le requin. Donc, c'est un échange de bons procédés. Et puis, on peut rappeler aussi très rapidement Michel Feltin-Palas que la langue française, c'est ludique. C'est fabuleux. C'est du plaisir.
Je fais de la pub. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Cultivons la langue française où j'explique. Enfin, mon parti pris, c'est de ça, c'est qu'on peut s'amuser avec la langue française.
Bien sûr.
Un exemple, pourquoi est-ce qu'on dit une grand-mère et pas une grande-mère? Voilà, j'explique ça. Pourquoi est-ce qu'on dit 20, 80, mais pas 2,20 ni 3,20. Voilà. Ben, quand vous découvrez les raisons, ça, c'est pétillant, mais je vous avoue, et je le fais sans flagorneur aucune, les livres de Jean Prévost, mais c'est formidable. Voilà. Vous riez, vous apprenez des choses, et ça doit être ça, la langue française. Et quand on transmet ça, ben, les gens, ils ont envie de lire après.
Cultivons la langue française, vous l'avez dit, c'est aux éditions Héliopole. Merci beaucoup, Michel Feltin-Palas, d'avoir accepté notre invitation. Mon cher Jean, merci beaucoup. Le dictionnaire du vin, de la bière et du champagne, c'est aux éditions Honoré Champion. Et il y a également les 100 mots et expressions de la langue française qui ont conquis le monde, qui vient de paraître aux éditions du Figaro Littéraire. Merci Jean Prévost.
Merci beaucoup.
À très bientôt, messieurs, sur RTL. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Nico qui est aux manettes aujourd'hui. Je voudrais vous préciser également que, puisqu'on parlait de la langue française, Muriel Gilbert vous attend le samedi, le dimanche dans la matinale d'RTL. C'est à 7h50 et ça s'appelle Un bonbon sur la langue. Elle raconte la signification d'une expression, son origine et son bon usage. Donc ça permet de poursuivre le plaisir de ce soir. Très bonne soirée, je vous embrasse.